ce sont les surréalistes qui ont fait vraiment connaître le romantisme. C'est une chose qu'on a oubliée. Et nous avons été ceux qui avons accueilli et considéré comme autre chose que des farceurs, des hommes comme Raymond Roussel qu'on réimprime aujourd'hui. Fantômas, l'importance de Fantômas sort du surréalisme. Le surréalisme a aidé à mettre à sa place le douanier Rousseau et le facteur Cheval. L'histoire la plus caractéristique de ce service qu'a rendu en général à la poésie le surréalisme est celle de l'histoire de la création de la partie moderne de la bibliothèque Doucet. Et vous comprenez qu'il y avait là, par exemple, tous les livres que lisait Rimbaud jeune. Et évidemment, nous avons eu quelques mécomptes, parce que, par exemple, Rimbaud parle de façon exaltée d'une poétesse qui s'appelle Louisa Siffert, et dont je dois vous dire que ce n'est pas très remarquable. Mais aussi, toute une série de livres qu'il fallait rechercher, parfois des mois pour avoir, sont venus dans cette bibliothèque constituer une espèce de perspective à la littérature qui s'était faite par d'autres voies que les voies officielles. Et avec elle, la philosophie d'ailleurs, sur laquelle tout ceci s'appuyait, d'Héraclite à Marx. Jusqu'à aujourd'hui, les jeunes revues, les groupes de jeunes qui apparaissent, ne se réclament guère que de ces écrivains-là qui ont été mis en lumière par les surréalistes. Et pas seulement pour ce qui est des Français. Par exemple, dans le domaine anglais, du roman noir anglais de la fin du XVIIIe à Lewis Carroll, des Hauts de Hurlevent à Peter Ibbetson, et à cela venaient s'ajouter les contemporains, des hommes comme Joyce, Cummings, que nous rencontrions, des Allemands comme Van Hoddis, dont le nom est oublié aujourd'hui en Allemagne et qui est un grand poète, des Italiens comme Alberto Savinio, beaucoup d'autres. À cette réalité-là, la réalité écrite, venait s'adjoindre la réalité au sens courant, la réalité quotidienne.
Et justement, cette réalité quotidienne, il faut m'apporter vos preuves maintenant.
Mais qu'est-ce que vous parlez ? De quelles preuves parlez-vous ? Les preuves, elles sont là. Est-ce que vous ne savez pas que nous aimions les objets neufs ? Les belles machines, comme par exemple, empeignées tout à fait en dehors de leur usage, Francis Picabia. Et aussi le développement des goûts absurdes rimbaldiens tels qu'on les voit dans La Saison en Enfer. Le goût de certaines chansons décriées, des cartes postales, des objets de foire. Parmi eux, par exemple, je signalerai des objets qui étaient courants, qu'on ne voit plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, il y a de la femme chez les coiffeurs, des représentations qui sont des représentations abstraites. Mais à l'époque, la représentation de la femme dans les devantures des coiffeurs, ces femmes avec de la soie et en cire et des faux cheveux, n'est-ce pas, étaient des espèces de fétiches modernes assez singuliers. Et à cela, on pourra joindre, par exemple, la présence, au début du Paysan de Paris, des pompes à essence, qui apparaissent alors comme des mythes neufs. Car c'était des objets qui venaient d'apparaître la saison précédente sur les routes de France. Aujourd'hui, on ne comprend plus très bien, peut-être, ce que signifiait, dans ce que nous écrivions, cette sorte d'entrée de la réalité. Parce qu'on ne voit plus le fil qui nous liait avec ce qui nous était immédiatement précédent, la littérature, la poésie de nos aînés et de l'homme qui nous a tous le plus influencés à cette époque et qui était Guillaume Apollinaire, vous savez, c'était l'homme du modernisme. Et rappelez-vous dans Calligramme, le vers qui dit « Crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus ». L'arrêt vient de l'enjambement. Les trains aujourd'hui appartiennent à la vieillerie poétique. Mais justement, notre action à nous autres surréalistes consistait à empêcher les choses à passer dans la vieillerie poétique ou à rendre jeunesse à la vieillerie poétique. D'une certaine façon, le surréalisme était un extraordinaire élixir de jouvence pour les éléments de la poésie.